Hé Clémence, viens, on part.
T'as déjà fait un podcast, toi?
Non. Et toi?
Non.
Viens, on le fait.
Carnet de voyage.
On vous a quitté à Toro Toro, et là, on arrive à Cochabamba, le dimanche soir. Le lendemain, on a rendez-vous avec Fernando à Martadero. Mais à ce moment-là, on ne sait même pas encore comment il s'appelle.
Martadero, c'est un lieu culturel qu'on a contacté un peu auparavant et qu'on avait bien envie de rencontrer.
On stresse un peu, il a du retard. Pour nous faire patienter, une personne du lieu nous ouvre une salle d'exposition qui retrace toute l'histoire du projet. Après une heure de retard, Fernando arrive enfin.
Bueno, ¿qué les interesa más conocer?
C'est là qu'on lui répond, dans un espagnol très moyen, qu'on aimerait suivre les projets proposés par la structure. Les œuvres de la Biennale des arts urbains, les ateliers proposés, la semaine du design et finalement, qu'il nous fasse visiter le lieu et qu'il nous le présente.
Ahora podemos visitar el sitio?
À partir de là, on va suivre ensemble Fernando. Il va nous raconter l'histoire et le fonctionnement du lieu.
On va aussi en apprendre davantage sur sa philosophie, son engagement social et politique, ainsi que sa vision artistique. L'idée, ça va être de retranscrire au mieux sa manière de penser.
Donc le lieu, avant, c'était un abattoir. Ensuite, ça a été une école, ça a aussi été un lieu de tournage, un lieu qui accueillait des cours de sport, des cours de boxe. Bref, c'est un lieu qui a eu de nombreux usages.
En 2006, l'association NADA, dont faisait partie Fernando, a investi le lieu. Et grâce à une concession de la ville de Cochabamba, elle peut l'occuper sans payer de loyer. L'idée de départ, c'était de créer un laboratoire expérimental où l'expression et la création artistique sont au cœur du projet. C'est alors que de ce lieu de mort est né un lieu de vie.
Mais les filles, ça fonctionne comment au niveau du financement du lieu?
Le projet coûte 100 000 dollars au total pour une année. Et ils n'ont pas besoin de payer de loyer parce que c'est une concession de l'État. Et une partie de cet argent sert à payer les salariés, les activités et les impôts.
Et les fonds, ils viennent d'où?
Un tiers viendrait du capital physique du lieu. Ils louent les espaces dans lesquels vont se dérouler différentes activités. Par exemple, 20% de ce tiers provient de la compagnie de théâtre associée qui loue une grande salle pour répéter et représenter. Les autres espaces sont loués par l'école de parcours ou celle de breakdance.
Et un autre tiers provient du travail de la structure pour d'autres structures. Par exemple, font un travail d'architecture, de communication web, etc. Et cet argent gagné va ensuite être réinvesti dans le projet. Et enfin, le dernier tiers, c'est des dons d'organismes et d'associations qui souhaitent soutenir le projet.
Somos un proyecto autogestionado y soberano. No nos presentamos a pedir dinero a organizaciones. Esperamos que vengan, conozcan y si les gusta, trabajamos con ellos.
Okay.
Comme la structure elle est autogérée, elle ne va pas demander elle-même des subventions aux organismes. Ce sont donc les organisations qui peuvent offrir leur aide pour le développement du projet.
Ils nous expliquent alors qu'ils ont trois principaux financeurs. Miserior, qui est une structure allemande qui soutient des projets de coopération et de développement. Oxfam, une organisation d'aide humanitaire présente dans le monde entier. Et Solidad, qui est une organisation suisse se basant sur un système coopératif pour financer des projets culturels, d'éducation, d'alimentation, partout dans le monde. Je me questionne alors sur la contrepartie de ces aides. Doivent-ils rendre des comptes, comme en France? Fernando me répond qu'ils doivent à la fois justifier leurs dépenses, par exemple à travers des bilans, mais aussi quand l'un d'eux va travailler en Suisse, c'est 5% du salaire qui revient à la solidarité internationale. On peut voir ça comme une sorte d'échange.
Pendant notre entretien avec Fernando, je lui demande si certaines informations sont confidentielles. Parce que j'avais envie de prendre des photos, etc. Et Fernando, en fait, nous explique qu'une des logiques du lieu, c'est justement l'ouverture à toutes et tous. Par exemple, les textes qui sont générés par le lieu sur le fonctionnement sont en libre service, accessibles sur le site internet. Donc en fait, c'est un lieu qui propose tellement de choses différentes qu'on se demande comment ils font pour s'organiser et tout articuler.
Fernando nous explique alors qu'en général, l'équipe se prend un mois pour se réunir et prendre les décisions collectivement pour l'année. On aperçoit par exemple sur le tableau un énorme planning avec plein de subdivisions. Sur celui-ci sont indiqués tous les événements qui vont avoir lieu. Les festivals, les activités, les ateliers, les représentations artistiques et les incidencias políticas. Je ne comprends pas ce que c'est et je lui demande de nous expliquer.
Incidir en castellano quiere decir lograr transformar las cosas a través de la legislación.
De ce que l'on a compris, les incidencias políticas, ce sont les actions menées par la structure pour changer des lois afin d'améliorer la société.
Fernando nous emmène ensuite dans une petite salle à côté. On y retrouve Kenneth. C'est le dernier à être arrivé à Martadero après son école d'architecture. Et il s'est spécialisé dans le digital et la réalité augmentée. Sa mission ici, c'est d'aménager une pièce qui est totalement vide. Lorsqu'il déplace son téléphone, grâce à la réalité virtuelle, on voit alors la pièce se dessiner.
Cette salle, elle servira à développer un petit Fab Lab. Un Fab Lab, c'est un espace pour créer et pour penser sur des idées.
Mais du coup, vous avez compris comment fonctionne le lieu ?
En fait, à Martadero, l'art est au centre de tout. On retrouve l'art à tous les niveaux de tous les projets.
Et, digamos, Martadero es esto. Martadero es un lugar, y ahora les explico un poquito. Es una célula, ¿no?
Effectivement, Fernando pense que Martadero représente la cellule d'un système plus large. Ce système permet l'émergence, à travers le monde, de nouveaux espaces, alternatifs dans leur manière de faire et de penser la culture.
C'est un projet très pluridisciplinaire qui propose plein de choses. Il y a plein de collectifs différents. Par exemple, il y a celui de parcours dont on a parlé plus tôt, mais il y a aussi un collectif de hackers. Et il y a des groupes qui ne génèrent pas d'argent. C'est le cas du collectif Cusca. Ce sont des femmes qui se retrouvent pour créer des œuvres en mosaïque ensemble. Et il y a aussi d'autres groupes qui vivent simplement de leur art.
On retrouve aussi d'autres initiatives. Par exemple, Micro para Avanzar est un projet de radio mené auprès des jeunes des quartiers qui se déploie dans tout le pays. Malheureusement, nous n'avons pas pu rencontrer les porteurs du projet. On a juste vu le studio d'enregistrement.
Hacemos cosas,
on fait des choses.
Et
pensando, on pense des idées et on construit des projets à travers des collectifs.
Que somos, no? Y convirtiéndonos poco a poco en unidades productivas.
On obtient petit à petit une unité productive. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan feo. Cada día es un día un volver a nacer. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer?
Une des principales caractéristiques de ce projet, c'est qu'à travers la culture, il travaille sur des nouvelles formes de fonctionnement de la société et aussi une nouvelle forme d'économie qui s'appelle la fluxionomia. La fluxionomia, c'est un mélange de créativité, de collaboration, de partage. Bref, ça intègre énormément de valeurs. Et Fernando, en fait, il en avait marre des modèles économiques libéraux et c'est grâce à celle qu'il nomme la mama de los pueblitos, la jefa, qu'il a découvert cette nouvelle économie. Cette mama de los pueblitos, elle s'appelle Lala de Jonslin. Elle est brésilienne et selon lui, c'est elle l'experte.
La principale différence avec l'économie traditionnelle, selon lui, c'est que dans l'économie traditionnelle, on ne pense qu'à travers la valeur de l'argent et de la rentabilité. Il nous explique alors que la logique du néolibéralisme emprunte un modèle économique qui suit les principes de l'individualisme et du consumérisme. Il fonctionne.
Si me preguntas a mí,
si tu me le demandes à moi,
funciona tanto, tanto que
cela fonctionne tanto, tanto, que je l'applique complètement dans ma vie et dans les classes à l'université. Pour Fernando, ce qui est important, c'est qu'à la fin de chaque mois, on se demande
comment les relations humaines se sont établies,
comment l'utilisation des espaces s'est mise en place
et comment ont-ils pensé l'environnement.
Il nous dessine au tableau pour que l'on comprenne mieux.
Ça, c'est une graine.
Elle représente la pensée.
Cette graine est plantée dans le sol.
Ce sol représente l'espace, le lieu de Martadero.
Pour que la graine pousse dans le sol,
que l'idée germe dans le lieu,
on a besoin que ce soit arrosé par un ou plusieurs agriculteurs.
Ces personnes, ce sont les porteurs du projet.
Tout cela génère une plante.
C'est le projet qui se met en place.
Et les plantes génèrent à son tour un fruit.
Ce fruit, c'est l'argent et les subventions.
Et ce fruit génère finalement à nouveau une graine.
Et le cycle recommence. C'est comme un cycle naturel.
Au final, ça fonctionne comment ?
Fernando nous dit que dans le monde actuel, si on n'a pas d'argent pour développer un projet, on bloque. Et lui, il essaye de se défaire de ce principe en se disant que le point de départ, ça peut être l'idée. Je cite « La première fois qu'on s'est réunis dans un appartement, il n'y avait pas de porte, pas de fenêtre, pas de complice, pas d'argent. Pourtant, on a commencé par faire dans cet ordre. » Et c'est ça la fluxonomia.
Il y a un fameux exemple qui est le taladro. ¿No? En Estados Unidos, ils ont fait un estudio muy divertido de los taladros. ¿Saben lo que es un taladro? No. Drill. Para hacer agujeros, ¿no?
Fernando nous parle alors d'un exemple connu. Aux États-Unis, toutes les familles ont une perceuse, mais elles ne l'utilisent que 15 minutes par an. Alors, quelle est la solution ? Partager. Il y a un problème de fond, nous dit-il. Le problème de fond, ce serait l'individualisme, le manque de collaboration, le manque de confiance et finalement, l'incompréhension. Pour Fernando, si on a un espace, des gens qui peuvent aider, ça fonctionne. Le problème, c'est qu'il y en a qui en veulent toujours plus.
Les entreprises, par exemple, ont comme principal objectif d'épandre leurs revenus, alors que dans le lieu de Marta Dero, le système se veut horizontal pour que les idées restent intactes et non corrompues. Donc en fait, tous les problèmes viendraient selon lui du système pyramidal. Dans le modèle économique classique, ça fonctionne en pyramide. Ce n'est ni un flux, ni une économie linéaire. Ce que Fernando veut, c'est casser les codes et faire évoluer les manières de penser au niveau structurel. Car, nous dit-il, on aura beau placer au sommet de la pyramide des personnes ou des parties différentes, ça ne changera pas. Le vrai problème, c'est le système lui-même.
Il nous affirme que, dans la société, 90% des personnes ne décident pas et ne souhaitent surtout pas décider. Elles élisent une fois dans l'année une personne qui les représente et qui choisira à leur place. Ça leur suffit. L'objectif à Marta Dero, c'est donc de changer ce fonctionnement. Tout le monde donne son avis et a un impact. Il dit « C'est dur, hein, c'est plus facile quand on nous dit quoi faire. » Là, Kenneth hoche de la tête. Fernando continue « Mais nous ici, on veut que chacun ait son mot à dire, son espace de réflexion et de création. » Les deux rigolent ensemble. On comprend que c'est difficile pour Kenneth, qui est nouveau et qui n'a donc pas l'habitude de travailler dans ce genre d'endroit. Gringo perro hijo de puta, no creas que se me olvidó. Intentaron robar y ya sabes lo que pasó. Intentaron dividir y ya viste no resultó. El que intentó mentir ya viste cómo acabó. Finalement, on peut qualifier Marta Dero et les lieux qui lui ressemblent comme des lieux d'innovation et d'expérimentation. Ils essaient de faire évoluer le modèle social et économique à travers la culture. Ça fait vraiment du bien de rencontrer un lieu avec un projet comme celui-ci et ça donne plein d'idées. On finit la discussion et on lui dit qu'on a tout compris. Et lui alors, il nous répond que ce serait bien qu'on lui explique, car lui-même n'a rien compris du tout.
En s'enregistrant, on s'est aperçu qu'on pourrait jamais tout raconter en un seul épisode. Mais c'était très important pour nous d'expliquer le fonctionnement et l'esprit du lieu qui sont à la base de tous les projets qu'on a suivis pendant la semaine à Cochabamba. Ce sera donc dans un autre épisode que vous allez découvrir la Biennale des Arts Urbains, les ateliers qu'on a suivis, ainsi que nos rencontres. Es de noche, y yo...